zone buissonnière. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.
Salut à toi, travailleur, travailleuse, fourbu, blasé ou repenti. Salut à toi, chômeur heureux ou indépendante, virevoltante qui s'auto-exploite. Salut à vous, lycéens, jeunes adultes ou parents à peine sortis de la bataille avec Parcoursup, la plateforme d'orientation post-bac qui stresse beaucoup de monde en posant les termes précis de la compète très inégale qui est en cours. Salut à toi, jeune qui nous écoute et à qui on pose sans cesse cette question pénible.
Tu veux faire quoi plus tard ?
C'est ce que tu veux faire quand tu seras grande ?
Réponse.
Je sais pas.
Eh oui, on te comprend. Bienvenue dans les ondes buissonnières. Cette semaine, on propose à vos oreilles curieuses un podcast sur le travail de demain. Ça s'appelle Curriculum Futurae. C'est de l'autofiction bizarre entre documentaire et enquête sociologique. Et c'est réalisé par Sébastien Dissner. Les deux épisodes d'aujourd'hui explorent les Uber-mondes et les mélodies algorithmiques. Bonne écoute.
Le Centre Vidéo de Bruxelles présente Curriculum Futurae, un podcast de Sébastien Dissner à la recherche du travail de demain. Tout commence par un rêve, un stupide rêve. Je suis convoqué à l'Office pour l'emploi du futur. Je suis un peu nerveux, j'ai amené toute une liasse de documents pour bien montrer que je cherche du travail.
Bonjour Monsieur Dissonner.
Bonjour.
Vous savez pourquoi on vous a convoqué à l'Office pour l'emploi du futur aujourd'hui ?
Non, pas vraiment.
Mais,
Je suis venu avec plein de documents, hein, donc des CV, des recherches d'emploi, des lettres
Monsieur
de motivation.
Monsieur Dissonner, Sébastien ?
Oui, c'est moi, oui.
Il y a erreur. Il ne s'agit pas de vous, mais de Dissonner Melville et Dissonner Marin.
Ah, mais ça, c'est pas
vous possible. Les connaissez ?
Oui, c'est mes fils.
Âge ?
5 ans.
5 ans et ?
5 ans et 5 ans, c'est des jumeaux.
Sexe ?
Masculin. J'ai toujours eu envie d'une fille, mais bon, ils sont adorables.
Je vois dans leur dossier qu'ils n'ont pas encore trouvé de travail. Ah,
mais non, mais je vous ai dit qu'ils avaient 5 ans. Donc je pense que c'est quand même un peu tôt pour...
Je suppose que vous êtes au courant.
Non, quoi ?
Afin d'optimiser la recherche d'emploi dans le contexte d'une réduction massive du travail sous la pression croissante de l'automatisation des tâches par les intelligences artificielles,
d'accord,
nous avons développé le programme Curriculum Futurae,
d'accord,
à l'attention des jeunes générations. Vous pouvez télécharger l'application sur votre smartphone.
Okay.
Monsieur Dissonner, vous comprenez ?
Non, pas vraiment en fait.
En clair, dans 20 ans, la moitié des emplois auront disparu.
Okay.
Alors si vous voulez que vos enfants aient un boulot plus tard, vous avez intérêt à vous y prendre tout de suite.
Ok. Ouais, c'est noté. Je vais y réfléchir. Enfin, je vais faire le nécessaire, quoi.
On se revoit dans 30 jours, avec un projet complet cette fois. En attendant, l'évaluation de vos démarches continue via l'application sur votre smartphone.
Où est l'avocat ?
Quelque part par là, je crois.
Mais c'est à mon tour, hein.
Il a raison, vas-y. C'est quoi ça ? C'est une plombière.
La médecin, on n'a pas retourné.
Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec eux comme démarche ?
Attends, un apiculteur, une apicultrice.
Bon, bravo. Prenons le taureau par les cornes. Après tout, peut-être que ma conseillère a raison. Le plus tôt on s'y prend, le mieux c'est.
Melville, toi tu veux faire quoi comme métier quand tu seras grand ?
Je veux faire le roi lion.
Ça veut dire que tu vas faire le dessin animé ou tu veux faire le lion ?
Le roi lion, je veux.
Mais tu veux... C'est un métier ça, roi lion ?
C'est roi lion, ça veut dire que roi lion, je sais chanter.
Ah, tu veux chanter le roi lion
encore, hein.
Quand tu seras grand. Et ça sera ton métier. Marin, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire quand tu seras plus grand comme métier ?
Mon métier, ce sera charbonnier. Celui qui fait du charbon.
Charbonnier ? Mais où est-ce qu'il allait chercher ça ? En plus, avec la fin des énergies fossiles, c'est mal barré, quoi.
Allô, Flo ?
Salut, Seb. Ça va ?
Je décide d'en parler à une amie.
Tu sais que quand on est face à une classe d'enfants de primaire, la plupart de ces enfants, ils feront dans le futur un métier qui n'existe pas encore.
Ouais.
Vous venez de recevoir une notification de l'application Curriculum Futurae.
Déjà.
Monsieur Dissonner, n'oubliez pas d'actualiser la recherche d'emploi du futur de vos enfants.
Ok.
Enregistrez message.
Chère conseillère du futur. Alors, je n'ai pas encore trouvé le futur métier de Melville et Marin, mais par contre, ce que je peux vous proposer, c'est de mettre à contribution mes compétences de fan de science-fiction pour tenter d'imaginer à quoi pourrait ressembler le monde du travail de demain. Pas juste pour Melville et Marin, en fait, mais pour tous les enfants de leur génération. Et ouais, rien que ça. Et après, si je trouve un métier du futur pour mes enfants dans l'eau, promis, je vous tiens au courant. Hein. Alors, je suis peut-être pas le mieux placé pour faire ça.
Par exemple, tu vois, le GSM, moi j'avais prévu que c'était un feu de paille.
Ah ouais.
Donc, je vais avoir besoin d'aide.
À un moment, je m'étais intéressée à la question du travail et j'étais tombée sur Dominique Méda, une sociologue qui s'intéressait spécialement à ça, à la question du travail et des métiers du futur. Ce serait chouette que tu la rencontres.
Je suis professeure de sociologie à l'université Paris-Dauphine.
J'ai pu demander à la sociologue Dominique Médard si ça avait du sens de faire des scénarios sur l'avenir du travail.
Justement, j'ai pas mal écrit sur ce sujet du futur du travail ou de l'avenir du travail. Et j'ai moi-même tenté de faire des scénarios. J'en ai fait 3, en fait.
Alors, ces 3 scénarios de Dominique Médard, je vais y consacrer chacun un des 4 épisodes de ce podcast. Est-ce que j'ai fait une erreur de calcul ? Non, mais j'y intercalerai un épisode de mon cru. Vous verrez. Dans ce podcast, on parlera d'ubérisation, d'intelligence artificielle, d'allocation universelle, de retour à la nature. Et je finirai par trancher pour un de ces scénarios, ou pas. On verra. Mais avant de nous plonger dans le premier scénario de Dominique Méda, le démantèlement du droit du travail...
Allô ?
Allô ?
Vincent, ça.
Hey, salut Seb.
J'appelle 2 autres de mes amis.
Allô ?
Allô ?
Coucou Sibylle, comment ça va ?
C'est Sébastien ?
Ouais.
Parce qu'il n'y a pas d'aide plus précieuse que celle de ses amis.
Non, c'est vrai que tu ne m'appelles pas souvent.
Et parce qu'entre-temps, je me suis souvenu de la suite de mon rêve à l'Office pour l'emploi du futur.
Je sors de son bureau un peu dépité, je m'assois dans la salle d'attente. Et puis, vous êtes là.
Ah ouais, dis dingue.
Vous me dites du genre, alors ?
Vous êtes là, Sibylle, Vincent, Florence ? Vous êtes de mon rêve ? C'était pas pour moi, hein. C'était pour mes enfants.
Bien sûr.
Bah, vous étiez au courant ?
Mais nous, on sait très bien ce qu'ils vont devenir.
Mais dites-le-moi, parce que moi, je veux savoir.
Alors, tes enfants, ils vont devenir sculpteurs de Big Data. Mais
pas du tout, pas du tout ça.
Non, en fait, ils vont créer des œuvres.
Ils vont devenir instituteurs de chamanisme, parce qu'il y aura des cours de chamanisme à l'école primaire. Et donc, ils apprendront aux gens à se
connecter. Non, c'est pas du tout ça. Ils vont devenir tout simplement des réparateurs d'objets connectés. Si, c'est comme ça que ça va se passer.
Dans le futur, les gens, ce qu'ils auront besoin, c'est d'une connexion avec la pluie, avec la neige.
Bon, quand j'ai dit que la meilleure aide venait de ses amis, je me suis peut-être un peu avancé. Mais enfin, tout est prêt maintenant pour entrer dans ce premier scénario de l'avenir du travail par Dominique Méda.
Le scénario du démantèlement du droit du travail, ça veut dire notamment de plus en plus de personnes sortent du salariat ou on diminue la place du salariat, donc on diminue les protections. Les personnes deviennent de plus en plus auto-entrepreneurs, auto-employées finalement, elles créent leur propre emploi. Et donc c'est une formidable régression par rapport à ce qui se passe depuis le 19e siècle où on a cessé de déployer... dans nos sociétés occidentales, des protections. Et on voit se déployer l'ubérisation de nos sociétés, c'est-à-dire c'est parti de quelques sociétés hein, qui utilisaient les applications pour développer les taxis, la livraison, etc. Mais peu à peu, on voit que ça pourrait tout à fait s'étendre avec les plateformes de micro-tâches. Donc l'idée, c'est on a des tâches à faire, on les envoie vers la foule des internautes et ce sont des prestations qui sont très peu payées. Et moi, je vois avec la crise de la Covid, là, une aggravation de ces tendances, c'est-à-dire de l'externalisation, de la plateformisation du travail et un retour à ce qu'on appelait au 19e siècle le tâcheronat, c'est-à-dire vous avez des personnes ou des entreprises qui coupent le travail en petits morceaux et qui l'envoient vers la foule. Donc ça veut dire il n'y a plus de salariat, il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus que dans le monde entier des travailleurs qui sont mis en concurrence les uns avec les autres.
L'ubérisation de la société. Si ce scénario s'imposait, à quoi ressemblerait le monde dans 20 ans ? Les taxis, la livraison à vélo, le logement avec Airbnb, tout ça n'aurait été qu'un début. Tout finirait par être ubérisé, même ce qui nous paraissait à l'époque parfaitement inubérisable, comme l'enseignement, les services publics, la culture, la mort, la religion. Mais avant d'extrapoler, revenons déjà aux mots.
Quand on parle de l'ubérisation, ben on fait de la publicité pour Uber chaque fois qu'on en parle.
Jean-François Neuven, juriste et ancien magistrat à la Cour du travail de Bruxelles.
L'ubérisation, c'est une forme d'organisation du travail dans laquelle une plateforme joue le rôle d'organisateur, puisque c'est grâce à la plateforme et aux applications informatiques qu'un client va être mis en relation avec un prestataire, avec un travailleur. Et donc la plateforme sert d'intermédiaire. Et tant le client que le travailleur sont connectés à la plateforme grâce à une application style smartphone.
Dit comme ça, ça a l'air plutôt cool, non ?
C'est une mise en relation très spontanée entre de l'offre et de la demande sur le mode quasiment du service entre copains.
Antoinette Rouvroy est philosophe et elle nous aide à mettre des mots sur les problèmes posés par l'ubérisation.
Il y a une sorte d'impression comme ça qui est donnée d'une très grande familiarité, de quelque chose de très cool. Ce que ça produit, ça, c'est que ben, tous les chauffeurs Uber sont quand même mis dans une concurrence absolue les uns par rapport aux autres, hein, puisqu'ils sont notés non pas par un patron, mais par tous les clients et quasiment en temps réel. On met des petites étoiles, des appréciations, des notations comme ça, et ce qui met finalement les gens dans une très très grande précarité. On n'est jamais suffisamment performant, suffisamment sympa, suffisamment souriant, suffisamment cool quand on conduit une voiture Uber, et on est mis constamment en concurrence à l'échelle du clic. Donc ce que ça produit, c'est évidemment aussi une fragmentation de toutes les forces collectives qui auraient pu être des forces de négociation face aux plateformes. La force de travail est éminemment éclatée. C'est vraiment chacun pour soi, chacun dans sa voiture, chacun qui, en plus, amène directement ses outils de travail. Ce n'est pas l'entreprise Uber qui paye les voitures, qui paye les formations des chauffeurs, etc. Tous les frais sont assumés par le travailleur et les travailleurs ne peuvent pas, en fait, se mobiliser collectivement.
En ce moment, comme on peut le voir presque chaque semaine dans les journaux, on assiste à de véritables batailles judiciaires contre Uber ou Deliveroo, pour ne citer qu'eux, en Belgique, en France, en Grande-Bretagne, en Californie. Alors, Jean-François Neuven, c'est quoi le problème de l'ubérisation en termes juridiques ?
Il faut que le travailleur accepte en principe d'être indépendant. C'est comme ça pour toutes les plateformes. Et le problème naît de ce que dans la réalité, il n'y a pas de véritable indépendance. En tout cas, que cette indépendance apparaît un peu fictive. Et donc, c'est comme ça que le problème devient un problème juridique, puisque le travailleur peut aller devant les tribunaux, par exemple, pour demander au tribunal de requalifier, donc de donner une autre appellation à la relation de travail et dire que ce n'est pas une relation indépendante, comme ça a été dit au départ, mais que c'est une véritable relation salarié.
Et qu'est-ce qui se passe quand un travailleur va devant les tribunaux, avec Deliveroo par exemple ?
Le premier jour, au début du procès, Deliveroo a tout de suite dit « Si vous nous forcez à occuper des salariés, on met la clé sous le paillasson. On arrête nos activités, on quitte la Belgique. On va travailler ailleurs, mais on ne travaillera plus en Belgique. » Dans leur modèle, ils n'envisagent pas que ça puisse être autre chose que des indépendants.
Et pourtant, il y a des indices très nets qui montrent que ces travailleurs ne sont pas indépendants, mais sont subordonnés aux plateformes, comme le sont des salariés.
Par exemple, si un travailleur d'une plateforme est évalué de manière moyenne ou négative par les clients, à un moment donné, la plateforme a le droit de déconnecter le travailleur, qui donc ne peut plus travailler. Du jour au lendemain, il se retrouve sans travail. Donc il est quand même soumis à des contraintes et à des contrôles que normalement un indépendant n'a pas. Se retrouver comme ça sans travail du jour au lendemain, ça n'est normalement pas la situation d'un travailleur indépendant.
Et c'est quoi les solutions juridiques qui sont sur la table pour le moment ?
Alors, je dirais qu'il y a deux grandes tendances. Il y a une première tendance qui est de dire on a un système avec deux possibilités, soit salarié, soit indépendant. Et il faut faire en sorte que dans ce système, le chauffeur ou le travailleur de plateforme occupe la position qui est la sienne, soit salarié, soit indépendant. Et là, vous avez des gens qui disent non, c'est plutôt des indépendants, d'autres qui vont vous dire c'est plutôt des salariés. Et puis, vous avez une deuxième option qui est de dire les plateformes, c'est tellement spécifique qu'il faut créer un troisième statut. Et par exemple, au Royaume-Uni, les travailleurs de plateforme ne sont pas indépendants, ils ne sont pas non plus employés ou travailleurs salariés, mais ils ont un statut de worker, et le worker, c'est ce troisième statut, ce statut intermédiaire entre l'indépendant et le salarié. Ça veut dire qu'ils ont une certaine protection, et tout récemment, un tribunal du Royaume-Uni vient de décider qu'ils doivent bénéficier des mêmes protections de leur santé que les salariés. Alors, en Belgique, il n'y a pas grand monde qui est favorable à ce troisième statut, parce qu'on dit de manière un peu pragmatique, c'est déjà compliqué avec deux. On a déjà du mal à tracer la frontière entre les indépendants et les salariés, en particulier pour les travailleurs des plateformes. Donc si vous créez un troisième statut, vous aurez encore plus de frontières. Vous risquez encore de démultiplier, d'augmenter les problèmes.
C'est le matin. Vous descendez les marches de votre immeuble 4 à 4 en consultant votre smartphone. Vous ne savez pas encore quel métier vous allez faire ce matin. Ah, il y a une annonce pour le ramassage des déchets dans votre quartier. Camionnette, permis de conduire, gants, vous possédez le matériel nécessaire. Vite, il y a deux autres personnes qui consultent l'annonce, vous acceptez. Cet après-midi, vous enseignerez les maths dans un établissement secondaire. Ce soir, vous servirez les repas dans un hôpital. Cette nuit, vous interviendrez pour tapage nocturne en uniforme de police. Ce qui est bien depuis que les services publics ont été ubérisés, c'est qu'il n'y a jamais deux journées qui se ressemblent. L'ubérisation des services publics, du ramassage des déchets, ça vous paraît plausible, ça, Jean-François Neuven ?
Le service public, c'est quand même soumis à certaines contraintes, et notamment à des contraintes de continuité. On pourrait très bien arriver à une situation où il n'y a personne qui est intéressé par le service offert par la plateforme, ce qui aurait comme conséquence qu'il n'y aurait plus personne pour ramasser les immondices dans votre quartier ou dans la ville. Donc, je pense qu'il faut aussi réfléchir à ça, que par exemple, le service public est soumis à une loi de continuité, à un principe de continuité qui ne peut pas être simplement l'offre et la demande organisée par une plateforme. Il faudrait s'assurer qu'à tout moment, il y ait suffisamment de personnes qui vont sur la plateforme pour se proposer, pour effectuer tel service. Donc je pense qu'il y a, pour certains métiers, en particulier dans le secteur public, quasiment des impossibilités de tout faire par le biais des plateformes.
Donc, ouf, mon scénario de l'ubérisation des services publics, apparemment, ça ne serait pas pour demain. Par contre, Uber et l'ubérisation semblent quand même avoir de beaux jours devant eux.
Uber, enfin, on parle toujours du même, mais Uber, ils font 14 milliards de chiffre d'affaires par an, mais ils font actuellement 8 milliards de pertes, donc leur activité en réalité n'est pas rentable, mais en bourse, on les a valorisés à concurrence de 50 milliards de dollars. Donc, c'est l'espoir qu'ils vont s'imposer à l'avenir qui fait que des gens, enfin des investisseurs, ont acheté des actions Uber alors qu'actuellement, le service n'est pas rentable. Mais ils sont tellement convaincus, ces investisseurs, qu'à long terme, la plateforme va s'imposer et va tout écraser, va écraser le système du transport de personnes, qu'ils sont d'accord de prendre le risque d'investir autant d'argent pour un service qui actuellement n'est pas rentable.
Vous venez de recevoir une notification de l'application Curriculum Futurae.
Monsieur Dissonner, combien d'offres d'emploi du futur avez-vous consulté aujourd'hui ?
On n'en fait jamais assez pour elle. Hein ?
Enregistrez message.
Aucune, chère conseillère du futur. Mais en voici une qui devrait pas mal correspondre à notre scénario de monde ubérisé. Tu aimes l'escalade ? Le parcours, avec un K ? Tu as l'esprit d'un aventurier ou d'une aventurière ? Deviens drone catcher, à mi-chemin entre le jeu Pokémon Go et le job de juicer, qui consiste à charger les trottinettes électriques en ville. Grimpe au sommet des toits des villes avec ton propre équipement et grâce à ton application géolocalisée, sois le premier ou la première à attraper les drones perdus. Tu sais qu'Amazon n'effectue plus ses livraisons que par drone maintenant. Mais tu ne sais peut-être pas que chaque jour, un faible pourcentage de la flotte ne revient pas à bon port. Victime de petits plaisantins, d'intempéries ou du vol en piqué d'un faucon pèlerin. Le premier ou la première sur place à récupérer le drone gagne le prix de la course. C'est fun, hein ? Il est fortement conseillé de souscrire à une assurance contre les chutes à tes frais.
Moi, comme tu sais, j'habite dans une sorte de tour et donc... Là, le soir, souvent, je regarde par la fenêtre arrière et je vois les toits des maisons et je vois souvent des toits plats. Et des fois, il y a des graminées qui poussent, puis il y a les martinets noirs qui arrivent, ils vont arriver là. Et donc, j'imagine que tous les toits sont verts et que, en fait, les animaux sauvages viennent vivre sur les toits des villes. Des chevreuils, par exemple, des rapaces, c'est dans le ciel, mais... Des renards, des lièvres, et aussi des maraîchers sur les toits, et puis des ponts. Tu vois des ponts en bois. Sur les toits, mais en même temps sur les ruines aussi, des vieilles piscines, tout ça, où la verdure a repris ses droits. Voilà. En fait, on est dans un monde un peu post-apocalyptique, mais où il y a peut-être des sortes d'arbres aussi qui ont commencé à pousser et qu'on est dans une autre, un peu une autre dimension du monde.
Dans les moments où tu attends que ton application sonne, peut-être que tu peux chasser le lièvre ou, je sais pas, cultiver quelque chose sur un toit en attendant, en fait.
Tout à fait. Faire des récoltes sauvages de baies, ou là, par exemple, c'est l'époque pour ramasser l'ail des ours.
Une sorte de chasseuse-cueilleuse des toits, comme ça.
Voilà.
Et si Uber et consorts ont de beaux jours devant eux, c'est peut-être aussi pour d'autres raisons, et ça, c'est le sociologue spécialiste dans Uber, Laurent Wartel, qui le dit.
Moi, mon terrain, donc, c'est les taxis Uber.
Et Laurent Wartel nous prévient, ce qui est valable pour les chauffeurs Uber ne l'est pas forcément pour les livreurs à vélo ou autres. Chaque plateforme a un profil de travailleur très différent. Nous voilà donc prévenus.
Et en fait, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que ce sont des profils, globalement, qui sont hors du salariat. Ce sont des gens qui sont soit... incapables d'accéder au salariat, soit qui ne désirent pas aller au salariat. Le modèle le plus classique, c'est l'inaccès au salariat. Et alors là, il y a deux ou trois grands profils. C'est grosso modo lié à tous les problèmes de discrimination sur l'âge, le niveau d'études, donc la compétence, et les origines ethniques.
Parce que chez Uber ou Deliveroo, peu importe tes origines, ton âge, ton diplôme, on n'est même pas trop regardant pour savoir si tu as des papiers. À partir du moment où tu as ta voiture ou ton vélo et que tu bosses bien, eh bien, tu auras du travail. Et ça, mine de rien, il n'y a pas trop d'autres espaces qui le proposent dans notre société.
Tant que le salariat dysfonctionne pour des raisons de non-plein emploi, de discrimination, etc., etc., je veux dire, on pourra tirer autant qu'on veut pour dire qu'il faut leur donner des emplois salariés. Est-ce qu'on va y arriver, en fait ? Moi, j'ai vu des personnes, des ouvriers très taylorisés, très travail à la chaîne, qui m'ont dit « je faisais ça pendant 30 ans », qui fondent en larmes parce qu'ils perdent leur travail, puis qui t'expliquent à quel point ils aiment Uber parce que en fait, ils retrouvaient de place nulle part. Et typiquement, c'est quelqu'un qui s'est pris un plan Renault dans la figure et qui voit ça comme une opportunité. Et donc, il n'est pas du tout dans la haine de l'ubérisation, etc. Pour lui, c'est une opportunité, s'il respecte les seuils, de transiter jusqu'à la pension, parfois pendant 10 ans. Et il faut bien comprendre, ceux qui n'aiment pas le modèle d'Uber, ça fait longtemps qu'ils ont déjà été dégagés. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous leur demandez c'est quoi que vous préférez dans ce métier-là, alors vous ne devinerez jamais ce qu'ils vont vous dire. Ils vous disent la liberté. Et alors c'est marrant parce que vous, en tant que chercheur ou militant ou quoi, vous vous dites mais en fait, il n'y a rien de plus coercitif, il y a les data et machin. Et en fait, c'est parce qu'il faut comprendre ça relativement à ce qu'ils pourraient avoir. L'alternative, c'est quand même souvent, comme je l'ai dit, travailler à la chaîne, travailler sur des marchés avec un patron qui lui dit « Ouais, il faut que t'aies porté 100 caisses de, je sais pas moi, de melons, de bananes ou quoi. » Et c'est très dur, ça, en fait. Et là, il t'explique « Ah, mais moi, j'ai besoin d'aller chercher mon enfant à l'école, je me déconnecte de l'application. » C'est la disparition du contremaître qui fait chier, en fait. C'est ça, le truc, faut le dire comme il est. Alors, en fait, il n'a pas disparu, ce contremaître, c'est juste qu'il fonctionne sur les data.
Et à propos de data, justement,
l'ubérisation et l'intelligence artificielle dans une question de futur, c'est extrêmement important, surtout si t'aimes bien la SF.
Oui, j'aime bien la SF. Est-ce que du coup, tu peux un peu développer ?
Ce qui est au cœur de tout ça, c'est la donnée numérique. Mais il y a même des gens qui vont vous dire qu'en fait, le business model d'Uber, c'est pas l'intermédiation entre une offre et une demande de travail. Ça, en fait, c'est un moyen pour collecter des data vers la voiture autonome, vers la smart city, etc. Et donc, effectivement, il y a cet enjeu-là. En fait, aujourd'hui, qui possède des millions de données, de photos, de feux rouges, de data de conduite, de la manière dont les gens conduisent, etc. Ben, c'est Waze, c'est Google, c'est Uber. Et donc, en fait, vous avez besoin de ces données pour entraîner les algorithmes, pour qu'après, ces algorithmes puissent conduire tout seuls.
Donc, on offre gratuitement nos données à ces entreprises pour qu'ensuite elles puissent nous remplacer, c'est ça? Et on peut faire quelque chose contre ça?
Pour moi, le plus grand combat collectif de gauche, pour faire vraiment très simple, c'est la question des data. La question de la production, du stockage, de la vie privée, enfin de tout ça.
De la
propriété, oui, bien sûr. Mais le jour où il y aura des voitures autonomes, comment est-ce que la richesse produite par ces voitures autonomes, autre chose, par ces robots, va être redistribuée?
La collectivisation des données, ça pourrait, selon Laurent Wartel, être un des grands combats de demain. C'est marrant, il flotte comme un petit parfum de communisme 2.0 sur cette idée, non? Comme une rumeur d'international, rebaptisée pour l'occasion international, comme e-book, e-commerce, e-mail. L'international. Je me demande quelles en seraient les paroles.
Debout les damnés de Twitter, debout les forces des data, la fin du micro-travailleur, s'émanciper de l'IA. Des données, faisons table rase, crowdsourcing, debout, debout. Changeons de base de données, n'offrons plus, reprenons tout. C'est le hacking final, en visio et demain. L'international sera le web humain. C'est le hacking
final. L'ubérisation semble s'installer dans le paysage. En même temps, il semble qu'elle ait des limites. Mon scénario de l'ubérisation de la société était sans doute exagéré. Mais est-ce que derrière ne se cacherait pas une deuxième phase, telle que Laurent Wartel le suggère, une phase d'automatisation du monde? Ça, c'est le deuxième scénario de Dominique Méda, et c'est pour le prochain épisode. Le Centre Vidéo de Bruxelles présente Curriculum Futurae.
N'oubliez pas d'actualiser la recherche d'emploi du futur de vos enfants.
Un podcast de Sébastien Disner à la recherche du travail de demain.
Alors, je voulais vous demander, est-ce que vous savez comment ça sera le futur ?
C'est quoi le futur ?
Le futur, c'est ce qu'il y a, pas maintenant, mais après.
C'est quoi le futur ?
Si pour l'instant, le futur, ça ne veut pas dire grand-chose pour mes enfants, pour d'autres enfants, comme cette classe de 6e primaire à La Haken, une commune bruxelloise, leur métier du futur,
ça semble beaucoup plus clair.
Calculateur d'espèces inconnues.
Archéologue du robot géant.
Faussaire d'ailes mécaniques high-tech.
Ministre des arts extraterrestres.
Créatrice de maisons en nuages biométriques.
Le premier scénario de la sociologue du travail Dominique Méda nous avait amené à imaginer une ubérisation de la société. On s'était rendu compte que derrière l'ubérisation, la question des data et des algorithmes était cruciale. Ce qui nous amène à notre deuxième scénario de Dominique Méda. Attention, autant le dire tout de suite, cet épisode est celui qui prête le plus à un imaginaire de science-fiction débridé.
Il y a un deuxième scénario qui était très en vogue avant la crise sanitaire et qui le reste.
Dominique Méda.
C'est le scénario de la révolution technologique. C'est-à-dire, on automatise tout, on digitalise tout, on utilise à fond les innovations technologiques. Et alors, c'est un scénario contrasté parce que les gens qui le promeuvent nous disent à la fois qu'on va perdre beaucoup d'emplois. Il y a pas mal de descriptions un peu apocalyptiques hein, qui nous disent qu'on va perdre la moitié des emplois dans les 10 ans qui viennent. Mais en même temps, que c'est un super scénario parce que le travail sera beaucoup plus sympa, le travail sera collaboratif. Et surtout, ce qu'indiquent ces gens, c'est qu'on sera sorti de ces vilaines organisations hiérarchiques où le salariat est prépondérant, où on est subordonné. Et donc, voilà, on travaillera en réseau, ce sera horizontal. Et d'une certaine manière, l'entreprise aura disparu et tout sera fluide. Quoi. Et moi, il me semble que ce scénario, il a sans doute des avantages, hein, mais aussi énormément de défauts. Et c'est là que je vois, moi, un scénario noir possible, avec la diffusion du télétravail, la diffusion du management par algorithme. Hein, c'est-à-dire, on est tous pilotés par des algorithmes, aussi bien dans les entrepôts, avec le voice picking. Hein, vous avez des gens qui vont chercher des paquets juste en écoutant les consignes qu'on leur donne par le casque. Mais bref, tout le monde est géré par des algorithmes, y compris les chauffeurs de VTC, les livreurs à vélo. Donc chacun est dans son petit script, quoi. Donc c'est un monde complètement déshumanisé et très, très dangereux, à mon avis.
Est-ce que notre futur va ressembler au film Blade Runner ou à un épisode de Black Mirror ? Est-ce que la seule solution, si nous ne voulons pas être remplacés par des machines, sera d'apprendre à les coder, voire à les hacker ? C'est la question que nous allons nous poser dans cet épisode consacré à l'automatisation du travail.
Je vous explique ce que c'est. C'est un jeu pour apprendre à coder, donc à faire des programmes pour les ordinateurs.
Comment alors, il faut faire marcher les voitures de course ?
Alors c'est avec effectivement un jeu avec une voiture de course qui va nous apprendre à coder.
Il paraît que pour les générations futures, apprendre à coder, ce sera aussi naturel que pour nous, ça l'avait été d'apprendre à lire et à écrire.
Je t'avais dit, c'est cool.
T'as vu, t'as fait démarrer et puis instruction tourner
à mon tour.
Monter. Allez,
pourtant, avec cette application pour apprendre aux enfants à coder à partir de 5 ans, tout le monde s'énerve très vite.
Pour l'instant, on est ici.
Déplacer le rouge, mais comment vous êtes
fait ? Pour l'instant, on est ici. Comment on fait pour maintenant, il faut aller faire quoi ?
Bon, je ne suis pas non plus le meilleur pédagogue, je dois l'avouer.
Mais à mon tour, très difficile.
Mais vous savez, bon, allez, on le fait sur les ferrons.
Il est très difficile.
Une fois qu'il est là.
Je crois que tu vas perdre.
Et juste après avoir téléchargé cette application, YouTube me propose, comme par hasard, une étrange formation pour mes enfants. Comme je n'ai pas les droits de cette vidéo, ce sont mes amis qui vont se charger de faire une reprise a cappella de cette publicité.
Votre enfant est un peu différent ?
Mais c'est garanti, 100% authentique.
Nos cours lui offrent l'occasion de développer des qualités attribuées aux jeunes entrepreneurs.
Pendant le cours, les enfants apprennent à inventer et coder des applications Android et iOS.
À mettre en œuvre des compétences telles que le travail d'équipe et la gestion de projets dans le cadre de leur travail.
En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, nos jeunes dirigeants technologiques vont lancer une nouvelle application qu'ils ont imaginée, développée et même conçue.
Il y a quelques années, j'avais été dans un lycée professionnel où les jeunes gens apprenaient à devenir chauffeurs routiers. Et j'avais été surpris de leur curiosité concernant la science-fiction, la prospective. Pour eux, ce n'était pas des élucubrations littéraires, c'était extrêmement concret. Leur question, c'était «
Ça existera encore, routier, après les études
bien, les camions rouleront tout seuls sans chauffeur.
Mais il y a d'autres domaines beaucoup plus surprenants où les algorithmes pourraient faire leur apparition ces prochaines années. Pour commencer, je vais demander à la philosophe Antoinette Rouvroy ce qu'elle pense de l'arrivée des intelligences artificielles dans le recrutement en entreprise.
Ça peut paraître une bonne idée, a priori, parce que l'économie comportementale nous l'a montré. Nous aimons tous travailler avec des gens qui nous ressemblent, en fait. Même à notre insu, on fonctionne tous comme ça. Et les employeurs vertueux qui le savent veulent se défaire de leurs propres biais. Et donc, ça peut paraître une bonne idée aussi, dans la mesure où les algorithmes, a priori, ne vont pas faire de discrimination de genre, d'origine ethnique, etc., puisqu'elles ne voient pas les candidats. Mais le problème, c'est que ces machines apprenantes, ces algorithmes sont en général entraînés sur base des données passées des entreprises. Or, on sait que la réalité sociale, malheureusement, est faite de rapports de force et de domination, et que donc il y a de la discrimination dans l'embauche, indépendamment des algorithmes. Alors, quand vous enregistrez que, généralement, les hommes arrivent plus facilement ou en nombre plus grand à des postes à responsabilité bien payés que les femmes, vous enregistrez ça sous forme de données que vous anonymisez, que vous désindexez, etc. Donc, vous n'interrogez plus la source des données, vous rendez ces données amnésiques de leurs conditions de production, et puis vous entraînez les algorithmes dessus. Et comme par hasard, l'algorithme, bien entendu, va reproduire cette structuration, ces normes sociales dominantes, dans ses recommandations. Donc, ça ne solutionne pas les problèmes d'inégalité des chances. À mon avis, il faut combiner l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle en connaissance de cause, c'est-à-dire en connaissant les biais des uns et des autres.
Alors, est-ce que les algorithmes peuvent augmenter notre intelligence dans cet autre domaine assez sensible qu'est la médecine ?
Vous venez de recevoir une notification de l'application Curriculum Futurae.
N'oubliez pas d'actualiser.
Bon, chers conseillers du futur, vous voulez connaître ma vision de la médecine de l'avenir ? Vous n'allez pas être déçus.
Enregistrez message.
Vous avez rendez-vous dans le hub médical flambant neuf qui a remplacé l'ancien cabinet de votre médecin de famille. Vous êtes dans la salle d'attente, tamisée comme une zone VIP d'aéroport. C'est votre tour. La docteure vient vous chercher. Vous la suivez et vous entrez dans un open space avec une dizaine d'isoloirs et des gens à l'intérieur. Elle vous fait signe d'entrer dans un de ces isoloirs. À l'intérieur, une borne automatique vous donne des instructions. Tirez la langue pour que la caméra examine vos amygdales. Dégagez votre front pour que le laser prenne votre température. Présentez votre poignet pour que l'écran tactile mesure votre pouls. Et la médecin virevolte de cabine en cabine pour voir si tout se passe bien, comme au supermarché, aux caisses automatiques, où il y a toujours quelqu'un pour vous aider en cas de problème.
Oh, mais moi, je crois pas du tout que ça va se passer comme ça, Sébastien. Moi, ce que je crois, c'est que dans le futur, la médecine, ça se passera par le téléphone. Comme on a déjà des montres intelligentes, tout ça, qui sont déjà en train de nous dire, attention, vous avez un taux de ceci trop haut, trop bas. Donc, on sera soi-même toujours en train de checker un peu le cœur, les différents organes, tout ça.
On s'auto-check un peu.
Ah ouais ?
Nous et la machine.
Bah oui. Ça sera fini, tu sais, les médecins.
Il n'y a plus de médecins, alors ?
Non, enfin...
C'est Google Médecine, en fait.
Ouais, peut-être.
Google Médecine a toutes les données, peut faire des statistiques aussi, savoir dans quelle catégorie tu te places, ou s'il faut que tu consommes plus de tel médicament, sponsorisé par Google Ad. Ouais.
Un futur où les médecins sont remplacés par nos smartphones, où les camions n'ont plus besoin de chauffeurs, où nous sommes tous plus ou moins menacés d'être remplacés par des robots, j'ai demandé à l'informaticien et philosophe Jean-Gabriel Ganassia s'il partageait cette vision de l'avenir.
Il faut savoir que le mot robot, par exemple, a été créé il y a un peu plus de 100 ans. Et c'est un écrivain de science-fiction, Karel Čapek, vivant à Prague, qui avait imaginé une pièce de théâtre dans laquelle il y avait des travailleurs artificiels qu'il appelait robots parce que ça venait de robe qui signifiait esclave en tchèque. Et cette pièce se termine de façon tragique parce que les hommes perdent en dignité ce que les robots acquièrent. Et tout d'un coup, bien sûr, les robots prennent le pouvoir et font disparaître les hommes.
Je sais pas,
Moi, ça aurait tendance à me rassurer de me dire que la peur d'être remplacé par les robots est aussi vieille que le mot lui-même. Pourtant, cette peur est réactivée avec les intelligences artificielles, notamment par une étude célèbre
rédigée par l'Institut du futur de l'humanité à Oxford, qui est furieusement transhumaniste et qui nous explique, avec des démonstrations assez alambiquées d'ailleurs, que le travail va disparaître, qu'il ne va plus rien y avoir, etc. Alors, on sait que chaque révolution technologique a un certain nombre de conséquences sociales, conséquences qui peuvent être tragiques pour certains. On se souvient par exemple que dans la métallurgie, les personnes qui faisaient du rivetage, c'était des gens hautement qualifiés. Puis tout d'un coup est apparue une nouvelle technique de rivetage pneumatique et à ce moment-là, on avait besoin de gens qui étaient beaucoup moins spécialisés et ça a mis tout un tas de personnes au chômage. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez ces métiers qui vont évoluer, mais ils ne vont pas disparaître. Simplement, il va falloir, pour les exercer, être en mesure de maîtriser ces automatismes. Ça veut dire qu'il va y avoir de nouvelles tâches et de nouvelles compétences qui seront requises. Et puis, il y aura peut-être de nouveaux métiers. Donc, on n'est pas capable de savoir exactement comment les choses évoluent.
Et donc, le médecin du futur ne va pas être remplacé par une borne automatique ou par notre smartphone?
On peut craindre tout d'un coup que les assurances sociales nous disent « Ah ben voilà, on a un système qui est parfait, et donc si vos conclusions diffèrent de celles du système, à ce moment-là, vous risquez bien sûr d'avoir un procès et de perdre le procès. » Ça veut dire que le médecin n'aura plus de liberté, que la machine va se substituer au médecin. Alors, en plus de ça, on peut avoir une deuxième inquiétude, c'est que les assurances sociales utilisent ces systèmes, non seulement parce que la machine est meilleure que l'homme, mais parce qu'elle est un peu plus économique. Mais on s'est trouvé avec des médecins qui sont vraiment trop dispendieux. Donc tout ça, bien sûr, a fait l'objet de pas mal de réflexions, et en particulier en France, l'Ordre des médecins a réaffirmé le fait qu'il fallait toujours que ce soit de la responsabilité du médecin, c'est-à-dire que c'est à lui, et à lui seul, de décider. Alors, il peut s'éclairer d'un système d'intelligence artificielle, mais il endosse toute la responsabilité. Ça veut dire que ces systèmes d'intelligence artificielle, il faut qu'ils disent, voilà, moi je vous propose telle réponse pour telle et telle raison. Quels sont les éléments qui ont conduit à telle conclusion plutôt qu'à telle autre conclusion? Il ne s'agit pas de la machine qui prend le pas sur l'homme, mais de la machine qui éclaire l'homme comme un conseiller.
Donc, d'après Jean-Gabriel Ganassia, c'est toujours le médecin ou la médecin qui prend la décision, c'est une décision humaine.
Bon, là, tu me rassures.
Ok, je jette mon scénario de la médecine à la poubelle et je prends bien volontiers celui de Jean-Gabriel Ganassia à la place. Mais est-ce que cette collaboration humain-machine sera toujours intelligente? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que dans certains secteurs, elle soit beaucoup plus brutale? Et là, je repense à mes élèves routiers. Est-ce que les camions autonomes ne vont pas tout simplement les mettre sur la paille?
Ce que l'on pense aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir des assistances à la conduite et qu'éventuellement, il y aura une autonomie sur certains segments parcours. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de chauffeurs. En revanche, les questions de manutention seront nécessaires au début et à la fin. Je pense que ce ne sera pas simplement porter des charges extrêmement lourdes, mais ce sera être capable de mettre en œuvre des automates qui seront capables de porter les charges extrêmement lourdes. Est-ce qu'il faut s'en plaindre? Le fait de porter comme ça physiquement avait un côté épuisant et le fait que nous ayons des machines qui permettent de faire ça à notre place n'est pas totalement négatif. C'est-à-dire, je crois qu'il faut aussi avoir une vision positive de la technologie. On vit plus longtemps. Donc bien sûr, il faut défendre un certain nombre de droits fondamentaux, mais il ne faut pas avoir une vision trop noire du futur, il faut savoir que le futur, on le construit. Et il va dépendre de ce que nous voulons en faire. Et c'est donc à nous de créer un futur désirable.
Mais difficile de se projeter dans un futur désirable quand tout ce qui vous vient de l'avenir, c'est ça.
Vous venez de recevoir une notification de l'application Curriculum Futurae.
Monsieur Dissonner. Inscrivez dès aujourd'hui vos enfants sur liste d'attente des professions qui ont une chance d'exister encore de...
Chère conseillère du futur, je ne dis pas que c'est le métier idéal pour mes enfants, mais je viens d'avoir une conversation avec un spécialiste de l'intelligence artificielle et ça m'a donné l'idée de l'évolution d'un métier dans le futur. Vous êtes sur l'autoroute, au volant d'un poids lourd. Bonne nouvelle, Ça veut dire que le métier de routier existe toujours. Enfin, quand je dis au volant, c'est un peu exagéré. Vous n'avez pas les mains sur le volant, mais sur une tablette où vous examinez des petits carrés évolués. Votre véhicule s'arrête sur une aire de repos. Les aires de repos sont exactement comme celles d'aujourd'hui. Sales, inhospitalières, vaguement cinégéniques, mais en 10 fois plus grand. Vous descendez du véhicule, longez le camion en vérifiant des paramètres sur votre tablette. Pression des pneus, température, connexion au réseau. Surprise ! Vous vous dirigez également vers le camion suivant, qui ressemble à s'y méprendre au vôtre, et à la demi-douzaine d'autres camions qui suivent. En fait, un peu comme vos lointains ancêtres, les cow-boys, vous convoyez tout un troupeau de camions autonomes. Dans le métier, on vous surnomme d'ailleurs « truck boy » ou « truck girl ». Dame Ned, numéro 9, le petit dernier, est absent. Pourvu qu'il ne soit pas tombé dans un piège. Les hackers de grand chemin, parfois, posent un leurre sur la route pour tromper la télédétection laser du camion et le détourner de son chemin.
Waouh ! Ben ouais, ça fait sens en fait que le futur c'est ça, oui.
Mais il y a un truc quand même qui, moi, me ferait un petit peu titiller là, dans ton scénar, c'est que en fait, c'est comme s'ils étaient formés une petite bulle et qu'ils n'étaient pas connectés à d'autres choses. Parce que moi j'imagine, hein, dès qu'un camion est détourné, hein, en fait, bah ok, il signale sa roue qu'il est détourné quelque part. Automatiquement, il est signalé. Et donc les autres le savent. On sait tout de suite qu'il y a un détournement de camion, tu vois. Parce que le réseau fait en sorte que les infos, les données, les datas, ça circule tout le temps.
Ouais. J'ai entendu il n'y a pas longtemps que je trouvais vraiment intéressant, c'est que par exemple, s'il y a un troupeau de chèvres à un endroit, et qu'il y a une chèvre qui est isolée à des kilomètres, mais qu'elle fait partie de ce troupeau à la base, et qu'il y a un feu, par exemple, qui effraie le troupeau de chèvres, eh bien, la chèvre qui est isolée de l'autre côté, elle va partir dans la même direction, et au même moment que tout le troupeau. Donc c'est comme s'il y avait une connexion qui nous dépasse. Or, ce qui est inquiétant, si tu veux, dans toutes ces projections avec les camions et tout ça, c'est que c'est l'homme à un moment qui croit qu'il a la maîtrise et la domination. Et ça ne prend pas en compte le fait qu'il y a peut-être des choses qu'il ne connaît pas, comme par exemple d'expliquer pourquoi ces troupeaux de chèvres réagissent comme ça, qui est de l'ordre de l'intuition. C'est compréhensible ce que je dis ?
Et est-ce que ça irait un peu mieux pour toi si on greffait le cerveau de chèvre au camion?
Ah.
Tu vois, ou un algorithme qui reproduit l'instinct chèvre au camion.
Mais revenons dans le réel. Il y a un autre domaine dans lequel les intelligences artificielles pourraient faire leur apparition ces prochains temps, c'est la justice. Et oui. Mais est-ce que pour autant c'est l'ordinateur qui remplacera le juge dans la salle d'audience? Est-ce que tout sera automatisé et on recevra notre verdict par notification sur notre smartphone? J'ai demandé ce qu'elle en pensait à la philosophe Antoinette Rouvroy.
Il y a certains aspects du travail des juristes, des avocats par exemple, et aussi dans une certaine mesure des juges, peut être automatisé. Typiquement, la recherche de la jurisprudence antérieure par exemple, ce qui est un travail assez fastidieux, que font souvent même les stagiaires avocats, hein. C'est vrai qu'un algorithme peut faire ça très très bien avec la reconnaissance de texte, etc., de structure. Ça, c'est très bien. Mais calculer et juger, ce n'est pas la même chose. Un juge qui obéirait simplement au résultat d'un calcul, ce ne serait plus un juge, ce serait une calculatrice. À partir du moment où les choses sont décidables, c'est-à-dire où la solution au problème s'impose sur le mode du calcul, il n'y a plus rien à décider. Ce qui fait la dignité de la décision, c'est précisément que c'est un geste qui peut toujours rater. C'est un geste décisif qui peut rater parce qu'il se prend toujours sur fond d'indécidabilité. Et c'est parce qu'on sait que c'est indécidable et que le juge inévitablement peut se tromper qu'on organise, que le droit lui-même organise la remise en question de ses propres productions à travers les recours, à travers la contestabilité des décisions de justice, etc. Le droit a une fonction anthropologique qui consiste à lier entre elles les diverses dimensions de l'être humain, c'est-à-dire la dimension biologique, ou physiologique, la dimension symbolique, la dimension sociale. On a besoin du droit pour lier ces trois dimensions-là. À partir du moment où les algorithmes, eux, ne peuvent métaboliser jamais que des données numériques, ça veut dire que vous devez réduire la dimension biologique de l'être humain à des purs flux de données numériques, que vous devez réduire la dimension symbolique à des purs flux de données numériques et la dimension sociale également. Il suffisait de traiter les données pour dire le juste, pour dire le vrai, nous n'aurions plus jamais besoin de comparaître pour donner nos raisons, nos motivations, ni rien du tout. Or, nous sommes des êtres de langage, et c'est à travers le langage que nous nous séparons de nous-mêmes et que nous nous lions aux autres aussi.
Et c'est à travers le langage que nous racontons des histoires, et notamment cette fiction qui s'appelle La Société, qui nous fait tenir tous ensemble. Mais les algorithmes, eux, quelle histoire ils nous racontent ?
Les signaux numériques, agrégés en quantité massive, ne sont plus des représentations du monde. Elles permettent de produire des hyperfictions, en fait. Hein. C'est-à-dire des fictions qui ont pour effet de produire et de générer leur propre réalité, et de devenir réelles, en fait. Toutes ces modélisations algorithmiques, dans la mesure où on se fie à elles pour agir sur le monde, ne font pas que décrire le monde. Elles transforment le monde, elles produisent une certaine réalité, elles produisent un certain monde. Elles ne prennent que le pouvoir que nous leur laissons. Et c'est vrai que c'est très tentant, justement, de se laisser glisser vers cette automatisation, vers cette renonciation à décider par nous-mêmes, se laisser guider constamment, que ce soit par les GPS, puis par les recommandations de contenu culturel, par les recommandations d'amis, par les recommandations de toutes sortes.
Est-ce qu'on doit préparer nos enfants à ça ? À affronter un monde encore plus saturé d'algorithmes qu'aujourd'hui ?
Les enfants qui sont en confinement, moi j'ai la chance d'avoir des enfants encore petits qui ne sont pas encore adolescents, mais ils souffrent terriblement de ce basculement dans le tout virtuel, dans le tout numérique plutôt que le tout virtuel. Je pense qu'ils en ont ras-le-bol. Et c'est ce que Jaron Lanier, inventeur de la notion de réalité virtuelle, disait lui aussi. Il disait finalement le gros avantage de la réalité virtuelle, c'est que quand on en sort, on commence enfin à goûter le vrai monde. Mais qu'est-ce que c'est mieux de sentir pour du vrai, de toucher pour du vrai, d'embrasser ses amis, d'être véritablement dans le monde avec toutes ses odeurs, avec toute sa matérialité, etc. La tentation, elle est du côté des industriels, elle est peut-être aussi du côté des gouvernants qui trouvent là une occasion peut-être de ne plus assumer la tâche de gouverner. Que eux soient très fortement tentés par tout ça, je veux bien le croire. Mais en fait, je ne pense pas que les citoyens soient tellement preneurs ni qu'ils aient beaucoup à gagner de ce tournant algorithmique. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que les métiers d'avenir, nous dit-on, c'est data scientist, c'est concepteur d'algorithmes, etc. Je n'en crois strictement rien. On a tendance à concevoir que chaque fois qu'on accélère, c'est un progrès. Toujours plus vite, c'est toujours un progrès. Mais par exemple, chez Simondon, qui était un grand penseur de la technique, lui disait, mais le progrès, ce n'est pas nécessairement l'accélération. Le progrès, c'est ce qui permet d'aller plus lentement. Si on a du progrès technique, ça va permettre aux gens de se reposer. Ça va permettre aux gens de prendre le temps, de profiter de la vie, de cultiver leur jardin, de passer du temps avec leurs enfants. Toutes ces choses qui ont véritablement du sens.
Ralentir, prendre le temps, au fond, on ne demande pas mieux, non ? Mais comment on fait pour ralentir dans une société où tout va toujours plus vite, où on n'arrête pas de nous répéter qu'il faut travailler plus si on ne veut pas gagner beaucoup moins ? Un avenir dans lequel on pourrait prendre le temps de travailler à son rythme. C'est utopique, ça ? Pas forcément. C'est ce que nous verrons au prochain épisode.
Curriculum Futurae, une production du Centre Vidéo de Bruxelles. Écriture, réalisation et montage, Sébastien Dissonner. Mise en onde, Aurélien Lebourg. Sound design, Anne Lepère. Musique originale, Fièvre. Prise de son, Aurélien Lebourg, Pierre Devalet et Arnaud Merton. Production déléguée, Cyril Bibas et Marc Jotard. Direction de production, Joël Kurtz. Avec, par ordre d'apparition, Dominique Méda, Antoinette Rouvroy et Jean-Gabriel Ganassia. Les trois amis, Sybille Cornet, Florence Klein et Vincent Tolomé. Coach Cœur, Maya Yentar. Merci à la classe de 6e primaire de l'Athénée Royal de Bruxelles 2 et à son enseignant Daniel Baguet. Avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Fonds Gulliver, de la RTBF et de la CSR.